Madame, monsieur, bonsoir.
Jusqu'alors, nous avions essayé de ne pas trop montrer notre inquiétude à propos du sort d'Alain Colas.
Le radar a été perdu vers 19h à la hauteur du Mont Saint-Odile, près de Strasbourg.
Et sur le mur, écrit avec des lettres de sang, Omar, le nom du jardinier.
Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement.
Fait d'hier.
Fait divers à Mougins, près de Nice, le meurtre de Ghislaine Marchal, la veuve de l'un des frères Marchal.
Chaque mois, Femme Actuelle Senior vous replonge dans une affaire qui a défrayé la chronique. Revivez les événements comme si vous y étiez et découvrez le fin mot de l'histoire. Dans cet épisode, l'affaire Omar Radad. Et si Omar n'avait pas tué ? Nous sommes le 24 juin 1991, sur les hauteurs de Mougins, dans les Alpes-Maritimes, au milieu des chênes et des pins. C'est un beau soir d'été. Deux gendarmes, Jean-Louis Tellière et Martial Littke, viennent de forcer la porte menant à la cave de la Chamade, la belle demeure en crépi rose de Ghislaine Marchal. On leur a signalé la disparition de Madame Marchal, alors ils viennent sur place vérifier. La riche retraitée, qui vit ici, n'a pas donné signe de vie depuis quelque temps. « Descends une lampe, vite !» crie Tellière à son collègue. Les deux hommes redoublent d'efforts pour réussir à entrebâiller la porte de quelques centimètres. Littke passe un bras, palpe un objet. Ça lui résiste. C'est un lit pliant. Il parvient à le pousser un peu. Un ray du jour couchant s'infiltre dans la pièce et tombe sur un interrupteur. Il est maculé de sang, comme le mur tout autour. Littke pousse encore. La porte cède et il parvient enfin à se faufiler à l'intérieur. Avec sa lampe, le militaire balaie les lieux. Et là, dans la pièce du fond, il distingue une masse sombre au sol. Instinctivement, il recule. Il continue à promener son faisceau électrique. Dans le petit couloir sur la gauche, il fait une autre découverte. 10 lettres de sang lui sautent aux yeux. C'est une inscription bien lisible, tracée sur la porte immaculée. « Omar m'a tué ». Le gendarme sort du sous-sol sans toucher à rien. Referme derrière lui et appelle ses chefs. L'affaire Omar Radad vient de commencer.
Fait divers à Mougins, près de Nice, le meurtre de Ghislaine Marchal, la veuve de l'affaire Marchal.
Le jardinier placé en garde à vue depuis mardi dans l'affaire de la...
Elle durera des années, déchaînera les passions, mobilisera les plus grands ténors du barreau et finira par envoyer en prison un homme qui n'a jamais cessé de crier son innocence. Mais revenons à ce soir de juin 91. Les hommes de la brigade territoriale de Mougins et de la gendarmerie de Valbonne sont arrivés à la Chamade, la villa de Ghislaine Marchal. Ils fouillent la demeure et le jardin de la disparue. La veille, le dimanche 23 juin, Ghislaine Marchal était attendue à 13h pour déjeuner chez Colette Koester et son mari. Elle avait confirmé le rendez-vous par téléphone dans la matinée. Oui, mais Ghislaine Marchal n'a jamais rejoint ses amis. Intriguée, Colette Koester est passée à la villa vers 18h30 pour s'assurer que tout allait bien. Elle a sonné au portail. Pas de réponse. Au départ, elle ne s'est pas trop inquiétée, car Ghislaine Marchal est une femme secrète, imprévisible. Elle est même un brin fantasque, si l'on en croit les habitants de son quartier tranquille et bourgeois de Saint-Barthélemy. D'ailleurs, même ses proches ne savent pas grand-chose de cette belle femme de 65 ans, pas grand-chose de sa vie, ni de ses fréquentations, ou de ses amants, si elle en a. La veuve de Jean-Pierre Marchal, héritier d'une florissante entreprise familiale, a su garder une part de mystère. Erika Serin, une autre relation de Madame Marchal, se présente à son tour à la Chamade le lundi 24 juin. Les deux femmes ont l'habitude de déjeuner ensemble au bord de la piscine. Elle sonne vers 11h30 et elle non plus n'obtient pas de réponse. Ghislaine Marchal est aux abonnés absents. Alors Erika Serin repart. Après tout, Ghislaine est coutumière de ces changements de dernière minute. C'est finalement Francine Pascal, la plus proche voisine de Ghislaine Marchal, qui donne l'alerte. Elle appelle la société AGM, chargée de surveiller la villa. Un employé se met aussitôt en route pour la Chamade. Il sonne au portail, mais l'interphone reste muet. Il a des clés. Il rentre dans la propriété. Il remarque que la maison est ouverte et s'approche. Un trousseau est resté dans la serrure de l'entrée. Tous les volets sont baissés, sauf une persienne dans la chambre bleue de Guylaine Marshall. Sur le lit défait, il aperçoit des produits de maquillage, un livre, une paire de lunettes. Il y a aussi un sac à main posé sur l'abattant du secrétaire ouvert. L'employé rentre aussitôt à son bureau et fait son rapport à sa supérieure. Cette fois, plus de doute, il faut prévenir les gendarmes. À 19h40, le médecin légiste et le substitut du procureur de la République de Grasse sont prévenus qu'on vient de découvrir le corps de Guylaine Marshall dans la chaufferie. Elle gît en peignoir pied de poule remonté jusqu'à la taille, à plat ventre, les bras remontés le long de la tête comme si quelqu'un l'avait traînée. Elle a été assassinée. La scène de crime témoigne d'une brutalité inouïe. Le sang a giclé, éclaboussé les parois de la cave. Une montre bracelet Cartier en état de marche repose dans une flaque. Dans la pièce principale, les gendarmes trouvent un bridge de 5 dents, une chaussure noire ornée d'une étoile, un sac en plastique imprégné de sang. Des traînées brunâtres maculent le sol. On distingue aussi des empreintes de mains ensanglantées. La victime s'est vidée de son sang dans la chaufferie. Elle a d'abord été frappée à la tête avec un chevron, puis avec une arme blanche à double tranchant, peut-être un de ces couteaux utilisés par les chasseurs pour saigner le gibier. La mourante a agonisé pendant une quinzaine de minutes. Elle a dû déployer des efforts quasi surhumains pour se protéger des coups violents qu'elle a reçus. Elle a 5 blessures à la tête, une phalange arrachée, la gorge, le ventre, le thorax et une cuisse transpercée par une lame. Elle a rendu son dernier souffle dans ce réduit bas de plafond. Dans cette pièce étouffante, les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Ils découvrent la marque rouge d'une main à laquelle manque un morceau de doigt, et surtout un second message en lettres majuscules. Quelqu'un a écrit « Omar, Ma, T ». Quelqu'un à terre et à bout de force. Cette nouvelle inscription est inachevée, à peine lisible, et se trouve à quelques centimètres du sol, et encore une fois, les mots accusent Omar. Mais qui est donc cet Omar ? C'est le jardinier de Guylaine Marshall. Il est né en 1962 au Maroc, dans un hameau de montagne. Il débarque par avion à Marseille en août 85. Analphabète, Omar Radad ne parle à l'époque que le berbère. Il a 22 ans et vient rejoindre son père qui travaille en France depuis 1962, notamment pour Francine Pascal, la voisine de Guylaine Marshall. Rapidement, celle-ci propose au jeune Omar de l'employer et le présente à plusieurs de ses amis, dont Guylaine Marshall, qui va le prendre sous son aile. Quand Omar épouse Latifa, en 1987, Guylaine Marshall l'éloge et leur offre des cadeaux à la naissance des deux enfants, Karim et Youssef. Pour Omar, timide et discret car il ne maîtrise ni ne comprend le français, Guylaine Marshall est une seconde mère. Aussi importante, dit-il, que sa maman au Maroc.
Ce matin, au palais de justice de Grasse, le suspect numéro un dans cette affaire, Omar Radad, est convoqué par le juge d'instruction qui doit prendre la décision de l'inculper ou de le relâcher. L'entretien dure près de 4 heures, preuve de la complexité de ce dossier. En effet, le juge n'a ni mobile ni pièce à conviction permettant d'accuser le jardinier de Madame Marshall. Mais il estime que la riche propriétaire de la villa est l'auteur de la fameuse inscription en lettres de sang « Omar m'a tué ». Aussi, il décide d'inculper d'homicide volontaire Omar Radad, qui est aussitôt...
C'est donc cet homme sans histoire que la police vient arrêter le 25 juin au matin à Toulon, au domicile de sa belle-mère, où il est venu fêter l'Aïd el-Kébir avec sa femme et ses enfants. Placé en garde à vue, menotté, attaché à un crochet fixé au mur, il est interrogé par les enquêteurs, sans avocat ni interprète. Sans relâche, il lui demande de détailler son emploi du temps du dimanche 23 juin, les habits qu'il portait, ce qu'il a fait à l'heure du déjeuner. Il lui pose la même question en boucle. « Pourquoi tu as tué Madame Marshall ?» Assorti parfois d'une variante. « Sale arabe, tu as tué Madame Marshall », en lui présentant les photos de sa patronne baignant dans son sang. Omar Radad répond comme il peut, moitié en français, moitié en arabe. Le greffier prend note inlassablement. Même quand le jardinier, faute de pouvoir s'exprimer en français, mime des gestes avec ses mains pour se faire comprendre. Mais comment se faire entendre quand un message écrit en lettres de sang vous accuse nommément ? Car les deux inscriptions trouvées sur les lieux sont au cœur de l'affaire. La première en particulier avec sa faute d'accord, « Omar m'a tué », avec un R à la fin, va faire couler beaucoup d'encre. Une lettre de trop qui sème aussitôt le doute dans les esprits. Ghislaine Marchal était-elle vraiment l'auteur de ces mots ? Une telle faute semble inimaginable pour une férue de mots croisés comme elle, à qui on prête une orthographe irréprochable. Mais plus tard, on retrouvera des écrits de sa main qui viendront démonter cette affirmation. D'autres hypothèses surgissent. L'inscription pourrait tout aussi bien être un coup monté. Le meurtrier pourrait avoir utilisé le doigt et le sang de la victime pour en accuser un autre. Il aurait aussi pu maquiller la scène de crime pour faire croire que la porte a été barricadée de l'intérieur par la mourante. Et qui sait, Madame Marchal connaissait peut-être un autre Omar dans son entourage. L'affaire s'annonce compliquée. Omar Haddad, qui a tout du coupable idéal, n'a peut-être rien à voir avec ce crime odieux. Car si son nom s'affiche à deux endroits sur la scène du crime, son implication n'a jamais pu être établie. Il n'y a pas de preuves matérielles. L'arme n'a pas été retrouvée et rien ne permet d'attester la présence du jardinier sur les lieux. Il n'y a pas non plus de certitude que la poussière sur ses vêtements provienne de la cave. Omar venait de tondre la pelouse chez la voisine, or on n'a retrouvé aucun résidu dans le sous-sol. Et surtout, le mobile fait défaut. Pourquoi Omar aurait-il sauvagement assassiné sa bienfaitrice, pris d'une rage qu'on ne lui a jamais connue ? D'autres éléments viennent semer le doute.
Madame Marchal, cinglante et agacée selon sa femme de ménage, lorsque Omar venait lui demander une nouvelle fois une avance.
On a mis en avant que le jeune père de famille aurait des problèmes d'argent. À plusieurs reprises, il a demandé des avances à ses employeurs. Il joue aux machines à sous et certains disent qu'il fréquente des prostituées. D'autres évoquent les libertés qu'il prend avec la religion et la prière. Mais rien de tout cela ne suffit à étayer la thèse du vol et encore moins celle de la culpabilité d'Omar Haddad. À la chamade, on a retrouvé la montre Cartier de la victime et ses bijoux. Seul de l'argent liquide aurait disparu, 5000 francs environ. Dans cette affaire, les raccourcis et les bizarreries ne manquent pas. Pas de preuves formelles, pas de mobiles qui tiennent la route. Même la chronologie des faits est sujette à caution. Les légistes entérinent une date de décès le 24 juin entre 11h et 13h. Leur conclusion, innocente donc Omar, qui se trouvait ce jour-là à Toulon. Mais on prétexte une faute de frappe de la secrétaire. On rectifie, et voilà qu'on décrète la mort au 23 juin, même créneau horaire. Aucune empreinte digitale n'est relevée sur la victime, et personne n'effectue de comparaison entre la largeur de ses doigts et les lettres tracées sur les portes. Ce n'est pas tout. 8 jours après les faits, les autorités délivrent un permis d'inhumer. On incinère aussitôt le cadavre. Désormais, plus de nouvelles analyses ADN ou de prélèvements possibles. D'autres points encore posent question. Les différentes expertises graphologiques se révèlent contradictoires. Quant à l'enquête de voisinage, elle a tout simplement été expédiée. Des scellés ont bien été posés sur la cave, mais ils sont amovibles. L'alibi du suspect a été vérifié à la va-vite. Il n'y a pas eu d'investigation poussée. Des photographies se sont volatilisées. Et personne n'a jugé bon de pousser les recherches dans le passé et l'entourage de la victime, en particulier en Suisse, où Ghislaine Marchal vivait une partie de l'année. La machine judiciaire est en marche, prête à l'engloutir et le broyer sans lui laisser aucune possibilité de se défendre. L'emballement médiatique est tel que l'opinion publique, en France, mais aussi au Maroc, se passionne pour l'affaire. Elle mobilise l'attention des avocats des cas célèbres et des causes perdues. Et bientôt, le débat est alimenté par les soupçons d'une justice à deux vitesses, celle des riches contre celle des pauvres. Des suspicions de racisme et l'ombre de l'erreur judiciaire pèsent aussi. Une ombre qui plane encore, 28 ans plus tard, sur une instruction suspectée d'avoir été menée entièrement à charge contre Omar Haddad, le jardinier illettré de la riche veuve.
Chose rare lors de l'ouverture d'un procès devant une cour d'assises, l'absence ce matin des pièces à conviction. Cela souligne bien la difficulté de cette affaire, car l'arme du crime, par exemple, n'a pas été retrouvée. Les éléments matériels sont minces, si ce n'est inexistants. Aux 12 jurés, donc, de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, de dire dans une dizaine de jours quelle lecture ils font de cette inscription en lettres de sang.
Quand le procès s'ouvre, fin janvier 1994, devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, ce sont deux ténors du barreau parisien qui s'apprêtent à s'affronter. Pour la partie civile, Henri Leclerc, un militant de la Ligue des droits de l'homme réputé pour ses positions humanistes. Côté défense, Jacques Vergès. Le personnage, plus sulfureux, est célèbre pour avoir défendu des criminels indéfendables, comme le nazi Klaus Barbie. Ce sont deux pénalistes hors pair, et deux thèses qui s'opposent. le calvaire d'une femme massacrée qui aurait désigné son assassin d'une main qui meurt, selon les mots de Maître Leclerc. Celui-ci est intimement convaincu de la culpabilité d'Omar Radad. Il plaide ainsi. Dire que Ghislaine Marchal n'a pas délivré ce message, c'est nier l'ultime manifestation de courage infini de cette femme agonisante. Elle a démasqué son meurtrier, il n'y a plus de secret, il n'y en a d'ailleurs jamais eu. Maître Vergès, lui, défend la vie brisée d'un homme qui clame son innocence depuis le premier jour, un homme prêt à se battre jusqu'à sa mort pour que justice lui soit rendue. Le verdict tombe le 2 février 1994. Tout le monde pressentait un acquittement. Mais les jurés, vraisemblablement déstabilisés par un juge à charge, vont créer la surprise. Omar Radad est reconnu coupable avec des circonstances atténuantes. Il est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Très virulent, alors qu'on lui a reproché sa passivité durant les débats, son avocat, Maître Vergès, compare cette décision à la condamnation du capitaine Dreyfus.
Quelqu'un dont j'ai prouvé l'innocence a été condamné à une peine, qu'il ne mérite pas. C'est la célébration du centenaire de l'affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin.
La remarque heurte profondément son confrère de la partie civile, Maître Henri Leclerc. Il lui rétorque. Ce n'est pas parce qu'il est maghrébin qu'il est coupable, et ce n'est pas parce qu'il est maghrébin qu'il n'est pas coupable. Ce verdict est loin de clore l'affaire. La lourde condamnation d'Omar Radad suscite de vives critiques et l'indignation.
La loi est stricte, elle interdit de commenter une décision de justice. Pourtant, 8 jours après la condamnation d'Omar Radad, pour le meurtre de Ghislaine Marchal, les critiques abondent. Celles d'avocats, de magistrats, d'intellectuels, mais aussi, et c'est beaucoup plus rare, de jurés qui ont eu à juger le jardinier marocain.
Le jeune Marocain est soutenu par ses anciens employeurs, mais également par des personnalités. Le romancier et essayiste Jean-Marie Roire, directeur du Figaro littéraire, s'émeut de cette erreur judiciaire au vu et au su de tout le monde, et malgré cela, la justice qui avance comme si elle était aveugle et sourde. L'académicien a publié un livre consacré à l'affaire. Il voit dans le jardinier un martyr et sera le principal animateur du comité de soutien pour la révision de son procès, qui compte parmi ses membres des personnalités des lettres françaises, Jean d'Ormesson, Henri Troyat, Éric Orsenna, Didier Van Kovelaert. 2 ans plus tard, le 10 mai 1996, le président Jacques Chirac accorde à Omar Radad une grâce partielle qui réduit sa peine de 4 ans et 8 mois. L'intervention du roi du Maroc Hassan II n'y serait pas étrangère.
Après 7 ans de détention, Omar Radad, grâce à cette libération conditionnelle, retrouve le monde extérieur et la foule des journalistes.
Je suis très très content de souhaiter les bras aujourd'hui, mais je ne suis pas très content avec des résultats de présent pour rien, et qui me l'a dit déjà mon avocat. Je souhaitais vraiment le combat et continuer jusqu'au bout.
Comment sont passés ces 7 ans?
Très très mal passé. Parce que c'est pas facile pour quelqu'un innocent de tenir les barreaux pour rien, c'est quelque chose de mal, très très mal. Voilà, et je suis très très fatigué. Je veux dire merci.
Omar Radad a regagné sa liberté, mais ce qui l'attend, c'est la reconnaissance de son innocence. Il le raconte dans un livre, « Pourquoi moi ?», paru en 2011. Il y écrit « Rien n'a pu faire vaciller la conviction du juge Renard qui se débarrassait avec une facilité déconcertante de tout ce qui m'innocentait. » Il revient sur son impuissance face à cet enchaînement implacable d'événements. Son honneur s'allie. C'est 7 ans, 8 mois et 4 jours de prison. Ces multiples grèves de la faim et une tentative de suicide derrière les barreaux dans l'espoir que la justice prenne enfin en compte les faits susceptibles de le disculper. Il fournit des éléments qui auraient dû peser dans la balance. À l'heure supposée du crime, il a appelé sa femme Latifa depuis une cabine téléphonique. Un témoin a aperçu une voiture et 2 personnes dans la propriété de Ghislaine Marchal le jour du crime. Son ADN a été retrouvé nulle part dans le sous-sol de la chamade. La deuxième issue, dans la cave à vin, enfin, aurait sans doute permis au meurtrier de s'échapper. Toutes ces pistes n'ont pas été suivies. Depuis 2008, Omar Radad a une nouvelle avocate, Maître Sylvie Noakovic. Elle soutient les demandes de son client pour obtenir la tenue d'un nouveau procès pour le réhabiliter. Elle voudrait que la justice exploite les différentes empreintes génétiques qui ont pu être isolées sur les pièces à conviction. Omar Radad, lui, a quitté la France. Incapable de retrouver du travail et en proie à une profonde dépression, il est retourné au Maroc, auprès de sa mère. Il attend. Ce texte, écrit par Isabelle Spack et adapté par Elsa Delavergne et Bénédicte Aubry, a été enregistré par Diane Mottez, mixage Lucas Vibo.